Belle soirée sur France Inter, il est 20h. Les infos, Anne-Sophie Balbir. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Pauline Ferrand-Prévot a une marche de devenir la première Française à remporter le Tour de France. 36 ans après la victoire de Jeannie Longo, la championne olympique de VTT était en démonstration cet après-midi. Elle s'est imposée sur l'étape reine de la Grande Boucle au col de la Madeleine et s'est en plus emparée du maillot jaune avec une avance de plus de 2 minutes 30 sur l'Australienne Sarah Gigante. Il va falloir finir le travail demain lors de la dernière étape en Haute-Savoie. Mais Pauline Ferrand-Prévot se rapproche clairement d'un sacre et fait le bonheur de la vice-présidente de la Fédération française de cyclisme, Marie-François Potreau.
Franchement, voir gagner avec la manière Pauline cette étape et être en jaune ce soir, c'est vraiment extraordinaire. Je savais qu'elle se préparait très très bien. C'est une fille qui est extrêmement sérieuse, qui ne laisse rien au détail, qui est très très bien encadrée dans son équipe, qui aujourd'hui a beaucoup de soutien aussi de sa famille, etc. Donc je veux dire, tout pour bien réussir. Simplement, il faut aussi après pouvoir pédaler. Et franchement, ce qu'elle a fait aujourd'hui, c'est incroyable. Parce que passer du VTT et revenir à la route, hein, parce que ça a été aussi une grande championne de route il y a quelques années en arrière. Et puis, sur un tel niveau, je crois que voilà, c'est vraiment extraordinaire. C'est quelque chose qui va donner un élan incroyable au cyclisme féminin français. J'ai vu elle a pris des photos avec des petites jeunes qu'on fait rouler devant les étapes, etc. Elle leur en met plein les yeux, quoi. Voilà.
Marie-François Potreau avec Fanny Lechevestrier. En natation aussi, la France s'illustre 2 médailles de plus aux Mondiaux de Singapour. Une en or décrochée par Maxime Grousset sur le 50 mètres papillon. Une en bronze sur le relais 4 x 100 mètres nage libre mixte. Il devrait y avoir encore 2 dernières chances de podium demain. Ça va mieux sur les routes ce soir. Environ 200 km de bouchons cumulés. Beaucoup moins que le pic de la mi-journée à plus de 1000 km. Pour ce premier week-end d'août, ce n'est pas une surprise. Le trafic a été particulièrement dense en direction de la Méditerranée et des plages de l'Atlantique. Demain, la journée est classée jaune dans le sens des départs. Dans les Bouches-du-Rhône, 16 des 25 massifs forestiers seront fermés demain. Le département est placé en rouge pour un risque très élevé d'incendie. Les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault, le Gard, le Vaucluse, le Var et l'Ardèche sont eux en orange. Plus de 1200 personnes rassemblées pour une rave party dans la Drôme entre les communes de Lens-Lestang et du Grand Serre. Dans un parc éolien, selon Isidro Mardèche, ex-France Bleu, des véhicules de gendarmes qui tentaient de bloquer l'accès au site ont été caillassés. Tous les accès routiers sont fermés. Des renforts venus de Lyon et Valence, notamment, sont arrivés sur place. Une infirmière de l'hôpital de Montreuil, mise en examen, est placée sous contrôle judiciaire. La jeune femme de 26 ans est soupçonnée d'agression sexuelle sur des nourrissons. L'enquête a été menée suite à la diffusion sur la plateforme TikTok de plusieurs vidéos sur un scandale dans le 93. La famille d'un otage israélien à Gaza condamne la propagande cruelle et ignoble des vidéos du Hamas. Ces 2 derniers jours, des images ont été diffusées par le mouvement islamiste. On y voit 2 personnes affaiblies, amaigries. Elles ont suscité un vif émoi en Israël et ont ravivé la nécessité d'arriver au plus vite à un accord pour les libérer. Aujourd'hui à Tel Aviv, l'émissaire américain Steve Witkoff a rencontré pendant près de 3 heures des proches d'otages. Sur les 251 personnes enlevées durant l'attaque du 7 octobre, 49 sont toujours retenues à Gaza, dont 27 ont été déclarées mortes par l'armée. Et puis dans l'est de Rome, à Tor Vergata, des milliers de jeunes assisteront ce soir à une gigantesque veillée de prière avec Léon XIV, avant une messe demain qui sera le point d'orgue du jubilé, année sainte de l'Église catholique.
France Inter présente.
Savez-vous que la grande exploratrice Ella Maillard a fait du ski en Asie centrale à 5000 mètres d'altitude? Allez, c'est parti! Touchous!
Les Odyssées.
Le podcast d'histoire et d'aventure pour les 8-12 ans.
Laure Grand Besançon.
Harriet Tubman, la résistante qui a sauvé 300 esclaves et l'étonnante voyageuse Ella Maillard. Bonnes vacances à toutes et à tous! Et surtout, gros bisous!
Les Odyssées de France Inter.
À télécharger sur l'appli Radio France.
Avec France Inter. Un podcast par jour, des acquis pour toujours.
France Inter, il est 20h04, à suivre Ma différence à moi avec Julia Foyce.
Cette semaine, on part à Bordeaux en fauteuil avec Martin Petit. Il y a 7 ans, un accident lui faisait perdre l'usage de ses membres. Aujourd'hui, il est sur tous les fronts pour que le mot « inclusion » soit dans toutes les têtes.
Mais tout de suite, le temps de se brosser les dents. Voici les petits bateaux avec Camille Cronier.
Et coucou les petites curieuses et les petits curieux. Bougez pas, elle est sur votre épaule.
Bonjour, je m'appelle Lilinet, j'ai 6 ans et demi et je voudrais savoir si c'est vrai que les points noirs sur les coccinelles, ça veut dire leur âge.
Et merci pour cette question bien mimi, une légende qui traverse les générations d'enfants. Le nombre de points qui correspondraient à l'âge des coccinelles. François Lasserre, vous qui avez créé l'Office pour les insectes et leur environnement, vous les connaissez par cœur les insectes, alors c'est vrai ou pas?
Alors moi j'adorerais parce que ce serait hyper pratique. Envoyer une coccinelle à 2 points, oh, elle a 2 ans, et envoyer une coccinelle à 24 points, oh, elle a 24 ans. Ah, 24 ans, ça commence à faire beaucoup. Oui, il y a presque 100 espèces de coccinelles qui vivent en France, et il y a toutes sortes de quantités de points en fonction des espèces. Mais non, ça n'indique pas leur âge. Aucune coccinelle ne vit 24 ans. C'est le record du nombre de points pour une espèce de coccinelle. D'ailleurs, on l'appelle coccinelle à 24 points. Il y en a même une dite à 22 points que l'on connaît plus ou moins, c'est la petite jaune. Est-ce que ça vous parle? Il y a une petite coccinelle jaune, on l'appelle la coccinelle à 22 points, mais elles ne vivent pas 22 ans. Elles vivent environ une année à peu près.
Toutes les coccinelles?
Oui, à peu près une année. Mais il y a un truc que j'ai tout de suite appris quand j'ai ouvert un livre sur les insectes, c'est que quand les insectes ont des ailes, ça veut dire qu'ils sont adultes. Et quand on est adulte chez un insecte, on ne change plus. Donc si on est rose, on sera toute sa vie rose. Si on a des rayures, on aura toute sa vie des rayures. Si on a 2 points, on aura toute sa vie 2 points. Et vous le savez, quand les coccinelles soulèvent leurs petits étuis devant, il y a des ailes qui se déplient, elles volent.
Ouais.
Et donc, un insecte qui vole, c'est un insecte adulte, il sera comme ça toute sa vie. C'est d'ailleurs pour ça qu'une toute petite mouche, c'est pas un bébé mouche, puisque si vous la voyez voler, c'est que c'est un adulte d'une petite espèce de mouche.
C'est une petite mouche, quoi.
C'est une petite mouche. Les larves d'insectes, les enfants d'insectes, eux n'ont pas d'ailes. C'est eux qui grandissent et ils n'ont pas d'ailes, comme les bébés de coccinelle. Donc un bébé de coccinelle, quand il sort de l'œuf, il ressemble à une espèce de petite chenille noire qui va grandir petit à petit. Donc il y a la coccinelle à 2 points, la coccinelle à 7 points, qui est assez connue. Les coccinelles arlequins qui ont toutes sortes de points. Donc c'est pas forcément toujours le même nombre de points au sein d'une espèce.
Mais qu'est-ce qui détermine le nombre de points, François Lasserre, sur les coccinelles?
Alors c'est la particularité de chaque espèce. C'est comme le nombre de rayures sur un zèbre. C'est comme le nombre de points sur un hibou, de taches. L'évolution a fait qu'ils sont arrivés comme ça et puis ça fonctionne. Le fait d'avoir 2 points, ça lui permet de vivre, d'être repéré entre mâles et femelles, d'effrayer les prédateurs, etc. C'est arrivé au cours de l'évolution sans intention.
Bon, donc les enfants, désolé, mais c'est pas la réponse. Vous pouvez quand même toujours le croire, mais voilà. C'est pas la vérité.
Moins d'un an en tout.
Ah, la courte vie des coccinelles qui portent vraiment bonheur, tiens ou pas? Ça, c'est une autre question. Salut les matelots!
Les petits bateaux, à retrouver quand vous voulez sur l'appli Radio France.
Et voici ma différence à moi avec Julia Foyce.
Bonjour, je m'appelle Julia Foyce, je suis journaliste et j'ai eu très envie de comprendre de l'intérieur ce qu'on vivait, comment on le vivait, quand on a un corps qui sort de la norme. Parce qu'il est trans, parce qu'il est noir ou gros, accidenté, handicapé, le podcast Ma différence à moi donne les clés du volant à celles et ceux qui ont quitté des routes bien balisées pour suivre des chemins plus singuliers. J'en avais marre qu'on parle à leur place, je voulais qu'on les entende se raconter, qu'on les laisse exister sans filtre, sans intermédiaire, aucun. L'espace de quelques jours, Lou, Kiemis, Julie, Martin et Bérénice ont enregistré des notes vocales sur leur smartphone et me les ont envoyées. Réception, écoute, assemblage, montage et voilà leur carnet de bord version 5G. Vous, dans ce 4e épisode, vous allez donc passer 40 minutes dans la tête de Martin Petit. Laissez-vous porter.
Donc là, comme tu l'entends...
Destination, Villeneuve-Pyrénées.
Je suis dans le tramway. Donc là, je me rends à un spectacle d'impro. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Donc là, je vais rejoindre des copains. Je t'avoue qu'à la base, j'avais pas trop envie de sortir parce qu'il fait froid. Et que bah, je suis blessé médulaire, donc j'ai une atteinte sur la moelle épinière, tétraplégique. Et en fait, on a un des troubles associés, c'est des problèmes de thermorégulation. Et quand il fait froid, bah, faut que je me couvre à balle. Donc là, je suis emmitouflé entre la doudoune, le gros pull, le t-shirt, le legging sous le pantalon, les chaussettes en laine des Pyrénées. Parce que bah, dès que j'attrape froid, après, je mets énormément de temps à me réchauffer. Ça me fatigue et c'est pas du tout agréable. Donc là, je rejoins mes amis. Que je suis très content de retrouver. Et c'est vrai que je prends pas toujours le temps d'aller à des soirées. Je fais un peu le papy en général, je reste chez moi. Parce qu'en dépit des apparences et de ce qu'on peut voir sur les réseaux, je reste mieux évidemment dans un lieu où j'ai tout le confort de vie et où il y a moins de fatigue, forcément. Parce que quand je me déplace, bah, ça reste une épreuve pour moi. Et j'essaie de me préserver au maximum. Là, je vais les rejoindre. Je m'arrête au prochain arrêt. Puis je reprends le fil de tout ça juste après.
Martin Petit est taiseux, voire secret, mais volubile, hyper sociable, la preuve par ses 112 000 abonnés sur Instagram, mais très solitaire. Solaire, oui, mais pas toujours. À 33 ans, Martin est un paradoxe vivant. Sans doute depuis que, pour lui, tout a changé. Virage très, très serré. 21 août 2017, Martin est en vacances chez son père, dans les Landes. Journée de plage, des courants, des bancs de sable, des marées qui empêchent de savoir exactement la profondeur qu'on a pour plonger. Dans l'océan, on voit rarement ses pieds. Martin y va, tête la première, coup du lapin, cinquième cervicale brisée, il se réveille à l'hôpital paralysé. Aujourd'hui très engagé sur les réseaux sociaux, il intervient aussi en entreprise et puis il a sa chaîne YouTube et ce format d'interview, confidence, monté pour faire taire les souffrances solitaires. Bref, Martin est en fauteuil, Martin est partout à la fois et il peut être cloué au sol. Pour une société vraiment inclusive, il pourrait déplacer des montagnes.
Ouais, on mange là. Hein. J'en profite que tout le monde est en train de commander un petit kebab. C'est, tu vois, j'avais repris une bonne diète depuis le début de l'année, mais c'est le seul truc qui est ouvert à cette heure-là. Donc écoute, là, on vient faire le spectacle d'impro. C'était très sympa. Moi, c'était la deuxième fois que j'en faisais. C'était très drôle. Alors attends, ce qu'il va falloir que je commande. Je vois que les regards se tournent vers moi. À tout à l'heure. Ok Google, ferme la porte.
D'accord.
Ok Google, allume toutes les lumières.
D'accord, je mets en route les 9 lumières.
Donc là, je viens de rentrer à la maison. Je suis rentré plus tôt parce que j'avais trop froid. Et merde. Et du coup, bah, j'ai une serrure connectée donc, qui est reliée à mon téléphone. C'est très chouette parce que du coup, je peux ouvrir directement depuis une application. Je peux ouvrir à distance aussi pour mes auxiliaires, etc. Quand des fois, j'arrive un petit peu en retard ou je suis en déplacement. Et pour revenir à mon anniversaire, écoute, moi, j'étais très enjoué de retrouver des personnes que j'apprécie. Hein. D'ailleurs, tu vois, je me suis fait la réflexion. Toutes les personnes avec qui j'ai fêté mes 33 ans, c'est des gens que je connais depuis moins d'un an. Parce que c'est vrai que j'ai du mal à créer des amitiés très solides. J'ai aussi du mal à aller vers les autres. Peut-être que cette condition aussi que je vis du fait du fauteuil roulant, bah, je sais que c'est une énergie que je vais devoir déployer. Des fois, je vais être le centre de l'attention alors que je n'ai pas forcément envie de l'être. Parce que tu le deviens, parce que les gens veulent prendre soin de toi et c'est toujours bienveillant. Et puis, il y a aussi ce côté où bah, des fois, tu n'as pas envie d'être dérangeant. Tu n'as pas envie que les gens se les mettent dans des contraintes que toi, tu vis. Tu n'as pas envie qu'eux les vivent à travers toi, tu vois. D'ailleurs, ça me fait penser à d'autres choses. Attends, je coupe le vocal son, il va être long, et je reprends. Ça me fait penser à d'autres choses, parce que c'est vrai que j'ai parfois le sentiment que la condition physique qui est la mienne est d'être en fauteuil roulant. Je peux pas vivre les moments, tu sais, un peu liants. Je te donne un exemple tout bête. Tu vas être à l'université, tu vas être en amphi, par exemple. Bah, tu sais, tu as un moment où tu passes par un chemin différent de celui que les autres empruntent. Et en fait, tu vas plus faire partie du groupe parce que le groupe, entre-temps, va vivre des choses entre elles, des blagues, des moments que toi, tu ne vis pas. Et je trouve qu'il y a un petit truc excluant. Et ça, je sais que c'est une réflexion que j'ai mis du temps à comprendre et à exprimer, mais elle peut être valable dans plein de moments de la vie. Quand tu vas au restaurant, quand il y a des marches, que la salle, elle est en bas, quand tu dois passer par un autre chemin pour accéder, je sais pas... à un complexe sportif, à une salle de concert, etc. Bah, tu vis pas les choses de la même manière que les autres. Typiquement, quand je suis allé au spectacle, bah, il y avait deux grosses marches, parce que c'est des vieux bâtiments dans Bordeaux,
ils n'avaient pas la rampe, ils m'ont porté. Moi, ce n'est pas un souci parce que je suis en fauteuil manuel, mais je me bats aussi sur le fait que une personne en fauteuil électrique, elle, ne peut pas assister à ça et je trouve ça un petit peu dommage. Tu as vraiment le sentiment que tu n'es pas à ta place, quoi. Tu as l'impression d'être de trop. Et là, je parle vraiment au nom de tout le monde, je pense. Des fois, c'est un peu décourageant à l'idée de sortir de chez soi. C'est chiant parce que tu es obligé de te justifier. En plus de ça, tu as les gens qui ne te voient pas, qui comprennent pas que si tu es en train de rouler en face d'eux, c'est à eux de s'écarter. Parce que peut-être que si moi je m'écarte, en fait, il y a juste un trou qui est à côté que lui ne calcule pas. Sauf que moi, je suis obligé de forcément prendre l'itinéraire où je ne prends pas de risque. Et bref, en fait, moi, ce qui me saoule quand il y a de la foule, c'est de devoir éviter tout le monde. Mais à la fois ça me saoule et à la fois j'ai pas envie de m'égosiller ou d'être en colère, parce que la colère, j'ai pas envie de la faire vivre en moi constamment, parce que sinon tu t'en sors pas. Au moment où je te parle, ça fait bientôt 7 ans et demi, j'ai appris à faire un peu vœu de sagesse. J'essaye de faire en sorte que mes émotions ne me contrôlent pas, parce que si je devais m'indigner à chaque fois que quelque chose n'est pas accessible, je serai finalement toujours soumis à de l'animosité ou je serai toujours peiné de certaines choses. Or, j'essaie toujours d'aller au travers de l'obstacle, de trouver des solutions. Par contre, j'estime avoir un rôle responsable, notamment au travers de la visibilité que je peux avoir sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que, en général, quand je m'indigne, c'est plus pour mettre en exergue des contraintes systémiques j'ai envie de porter ces messages-là. Donc voilà, alors attends, je reprends ce que je me suis un peu garé dans ma tête et puis je remets aussi les choses dans le contexte. Je suis arrivé à Bordeaux, je connaissais personne, j'arrive pas trop à me l'expliquer, mais j'avais besoin de repartir à zéro au moment de mon accident. Après un an de rééducation, je me voyais pas retourner en Touraine, j'avais besoin d'avoir mon indépendance, de pas retourner dans les endroits où j'avais grandi, etc. Et puis après, il y avait aussi une autre réalité qui est importante à dire, c'est que j'ai mis 4 ans ou 5 ans avant d'avoir ma première voiture. Et avant, j'étais dépendant des transports en commun, donc ça reste quand même de la charge mentale, de l'organisation. Ce n'est pas aussi simple que pour tout le monde. Se réapproprier son corps, reprendre confiance en soi, c'est des choses qui mettent du temps. Tu vois, moi, je me souviens, par exemple, les premières fois où je prenais le tramway, j'avais des appréhensions, je ne savais pas où j'allais, j'avais les gens qui me bousculaient, j'avais le regard des gens qui me pesaient, etc. En fait, c'était peut-être aussi le regard que je posais sur moi, parce que les gens, ils ne me regardaient pas forcément parce que j'étais handicapé, ils me regardaient certainement parce que, ils aimaient bien ma casquette, ou ils aimaient bien ma veste, ou parce que ma tête leur venait. Tu vois, des fois, on se met des choses en tête, et des fois, c'est un peu aux antipodes, donc reprise de confiance. Et c'est vrai que la contrainte te dissuade de faire les choses. Devoir prendre un train, un autre, faire un changement de gare, tu te décourages. Et ces choses qui te découragent, à mon sens, peuvent altérer tes relations humaines, que ce soit amicales ou même amoureuses. Et c'est vrai que il faut reposer base par base. Avoir ton habitat, qu'est-ce que tu vas faire un peu de ta vie, ton diplôme, comment tu vas gagner ta croûte. Et c'est des petites briques que tu mets petit à petit pour solidifier un peu la suite de ton empire. Bref. Donc là, je suis au chaud à la maison. Je vais le mettre sous la couette et puis je vais faire un bon petit dodo. Et puis ça ira mieux. Il est à peu près 8h30. Là, j'attends du coup l'infirmière qui va passer ce matin. Comme vous pouvez l'entendre à ma voix, je suis pas trop réveillé. Je suis un peu fatigué, j'ai pas très bien dormi. Mais c'est pas grave. Du coup, là, je vais l'attendre pour qu'elle puisse m'aider à la douche, à m'habiller et que je puisse commencer cette journée sereinement. Là, je vais m'habiller présentement. Je suis avec Valentine.
Coucou Valentine.
Bonjour.
Oui, ça fait bien.
Ouais, franchement, c'est chouette comme ça.
T'avais vu avec la peinture et tout?
Pas sûr.
Les lumières, c'est sûr, je les avais pas?
Non, ça c'est sûr.
Parce que je les ai reçues chez mes parents.
Je crois que t'avais encore le canapé long
Ouais.
La dernière fois.
Ouais, ça fait du bien un peu de changement, justement.
Alors... Puis l'appart, il est beaucoup plus fonctionnel pour moi.
Ouais, j'ai beaucoup plus d'espace.
Ouais.
Oh, j'ai pas un palace, hein, mais...
Oui, mais bon. Tu mets pas de t-shirt sous ton pull?
Non. Par contre, ouais, je mets direct les chaussures. Hein.
Ok.
Je peux les mettre là. J'ai pas donné les plus durs. Hein.
Non, ça va.
Les scraps, c'est les plus faciles.
C'est pas juste, ça, je sers pas. Hop.
Quand tu as de la dépendance, tu es tenu d'avoir des personnes qui viennent soulager ce quotidien. Et au début, d'avoir quelqu'un à la maison qui vienne m'aider tant pour les auxiliaires que bah, de l'aide physique pour aller à la douche, etc. J'avais un peu du mal, voire même beaucoup, parce que quand tu as été toute ta vie indépendant, que tu t'es souvent débrouillé par toi-même, etc., du jour au lendemain, bah, quand tu es dépendant d'un tiers pour aller te doucher, t'habiller, aller aux toilettes, etc., bah, c'était compliqué. Après, au fil des années, je l'ai intégré dans mon quotidien, donc c'est vrai que j'en fais peut-être moins un problème. Et puis aussi, la chance que j'ai, c'est que en réalité, j'ai un niveau d'autonomie qui me permet de pouvoir m'en passer quand j'ai besoin de le faire. Et si je les garde, c'est plus par souci de gagner du temps, parce que bah, tu vois, mettre des chaussettes, des chaussures, un legging, un pantalon en hiver... Quand il y a quelqu'un qui m'aide pour le faire, bah, c'est quand même beaucoup plus rapide, c'est chouette. Et puis ils sont très cool dans l'endroit où je suis. Souvent, bah, ils ont aussi des galères d'effectifs, etc., d'arrêt de travail. Donc, bah, ils savent que moi, je peux me débrouiller par moi-même. Donc, souvent, ils me passent un coup de fil. Ou même, des fois, ils me disent, bon, bah, Martin, désolé, ce matin, il n'y aura personne. Et ça ne me dérange pas parce que je suis capable de me débrouiller par moi-même.
Concrètement, au quotidien, de vivre avec un corps qui n'est pas dans la norme, devenu tétraplégique à la suite d'un accident, Martin Petit nous le raconte ce soir. Voici son carnet de bord, version 5G.
Ma différence, à moi. Julia Foyce sur France Inter.
Si on refait un petit peu la jeunesse de l'histoire, donc effectivement, à la suite de mon accident, j'ai eu une atteinte sur la moelle épinière au niveau C6-C7. c'est ce qui correspond à mon niveau de lésion. Tout ce qu'il y a au-dessus, ça fonctionne. Tout ce qu'il y a en dessous, ça ne fonctionne pas. Donc moi, C6, C7, c'est une atteinte au niveau des triceps. Donc j'ai les triceps qui sont touchés, qui sont relativement faibles. Mais tout ce qu'il y a au-dessus, ça fonctionne. Donc les épaules fonctionnent. Tu as le diaphragme, tu as évidemment la tête, le cou, etc. Et tout ce qu'il y a en dessous de C6, C7, donc grosso modo, des pectoraux jusqu'au doigt de pied, je n'ai plus rien. Par contre, j'ai une tétraplégie incomplète. Ma moelle, elle a été pincée, pas violemment comprimée ou sectionnée. Donc, c'est-à-dire que je sens mon corps dans l'espace. Et pour les tétras et les paraplégiques incomplets, on a statistiquement plus de chances de récupération. Donc moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai fait un an de rééducation. Donc voilà, on m'a appris à me transférer, on m'a appris à manier un fauteuil roulant, à passer des marches. Donc ça, c'est quand même un an. C'est très long. Le temps, il passe au ralenti. Des fois, tu as le sentiment que cette année a servi à rien. Et en fait, cette année, elle est quand même essentielle parce que ça permet aussi d'introspecter. Et en réalité, tu apprendras aussi beaucoup à la sortie du centre, parce que dans un centre de rééducation, tu es materné par des personnes qui vont être là, derrière toi, qui connaissent les pathologies. Et en fait, la vraie difficulté, ben, elle est dehors, elle est dans la confrontation au réel. Et moi, pour parler de moi, mon autonomie, elle est quand même maintenant à 100%, mais j'ai mis plusieurs années avant que ce soit le cas. Tu vois, me coucher tout seul, m'habiller tout seul, aller aux toilettes tout seul. Par exemple, la chose qui me sert le plus, c'est que j'ai un mouvement du pouce que je peux venir caler sur mon index et ça me permet d'avoir une pince à droite qui est bien meilleure que la plupart des tétras. Et il y a aussi quelque chose que j'ai, c'est propre à tous les tétraplégiques, c'est l'effet ténodèse. Donc en fait, avec le releveur du poignet, quand tu vas relever ton poignet, tes doigts vont se rétracter naturellement. Et disons que l'association de cette ténodèse, des doigts qui se rétractent et de ce petit mouvement du pouce que j'ai récupéré, fait que j'ai une pince qui est vraiment pas mal et que j'arrive à exploiter. Je peux tenir, je sais pas, une clé Allen, par exemple, et j'ai réussi à monter une table comme ça, tout seul, armé de bonnes heures, 3 heures de patience, là où ça aurait pris certainement 30 minutes au commun des mortels. Mais voilà, ça me permet de tenir des petits objets, tenir ma fourchette pour manger. Voilà, donc ça fait partie des petits exemples où, je sais pas, retirer un capuchon d'un parfum ou... Voilà, ça me permet de faciliter un petit peu mon quotidien. Donc bah là, je suis dans mon appartement, donc je vais vous faire la petite visite. Je dis petite volontairement parce que l'appartement n'est pas immense. Donc j'ai une cuisine là sur la droite que j'ai fait installer quand je suis arrivé. C'est-à-dire que là, j'ai la partie sous le lavabo qui est tout décarrossé. Donc en gros, je peux passer les genoux, donc je peux passer en dessous mes jambes du fait du fauteuil roulant, donc que ce soit pour la cuisine, pour accéder au lavabo, etc., accéder aux plaques de cuisson. J'ai des placards au-dessus avec un système qui me permet aussi de descendre les plateaux à mon niveau. Donc après, quand on se tourne, donc là, il y a eu beaucoup de changements depuis quelques mois. Parce que j'ai mon format d'interview sur YouTube et c'est vrai que j'avais envie d'avoir un espace qui était à la fois fonctionnel pour moi, qui puisse me servir professionnellement pour faire mes interviews, ce qui m'évite de déplacer tout le matériel que je déplaçais à l'hôtel où je les faisais. J'ai une grande baie vitrée qui donne accès à une terrasse qui est grande, donc ce qui est plutôt pratique pour moi parce que je peux entreposer mon fauteuil électrique, ma trottinette électrique. Et donc, sur la droite à la cuisine, tu as une porte. Tac, tu arrives dans la salle de bain. Donc, la salle de bain, elle n'est pas très grande, mais j'ai une douche de plein pied. Donc, la douche de plein pied, évidemment, c'est pratique pour moi. J'ai mon siège de douche où je peux me transférer. J'ai mes toilettes avec la barre de soutien. D'ailleurs, je suis en train de remarquer qu'elle est un petit peu tordue. Donc, tu vois, à force de mettre du poids dessus, ça doit un petit peu l'abîmer. Et ensuite, la dernière pièce, j'ai une petite chambre qui est en face de la porte d'entrée. Quand on traverse... le salon, je dis traverser, mais on le traverse très vite. Hein. En deux coups de roue, je suis dans ma chambre. Et donc, dans ma chambre, pareil, là, c'est un petit peu le bazar parce qu'il y a eu pas mal d'aménagements chez moi, des nouveaux travaux, etc. Et donc, du coup, j'ai mes penderies qui sont des penderies plus pour enfants, adolescents, pour que je puisse y accéder. Et j'ai un grand miroir qui est en face de moi, donc qui permet un petit peu de gagner en profondeur. Bon, c'est une chambre classique avec un grand lit qui est collé au mur. Donc, je suis très content de mon appartement. Il n'est pas très grand, mais il est chaleureux. Donc, je suis plutôt bien.
J'ai beaucoup de gratitude parce que j'ai quand même un niveau d'autonomie qui me permet de pallier à des choses qui ne sont pas toujours accessibles. Tu vois, par exemple, mon appartement, j'avais fait une demande de logement social qui avait tardé à se faire. Et bon, l'appartement, tu vois, il est entre guillemets aux normes. Mais par exemple, les portes du bas, elles sont excessivement lourdes. Et moi, j'arrive à faire un peu bélier avec mon fauteuil et mes chaussures pour la pousser quand tu as des courses, quand il pleut. Je sais pas, ça va moins adhérer au sol, etc. Ça peut être une contrainte. Merde, j'ai failli faire tomber le téléphone.
Oh là là, c'est moins une.
Donc là, je suis en face de mon miroir. Donc j'ai un grand miroir qui est pas très haut, mais qui est assez large. Donc ce qui est plutôt pratique pour quelqu'un qui est constamment assis. J'en rigole volontairement. Pour me décrire rapidement, je suis un jeune trentenaire, en fauteuil roulant. J'ai les cheveux entre courts et mi-longs, ça dépend. J'ai la petite barbe comme beaucoup de jeunes de nos âges. Qu'est-ce que j'aime chez moi? Je dirais que j'aime plein de choses. Hein. J'ai peur d'être un peu prétentieux, mais je prends soin de moi, je prends soin de ma santé, donc je pense que mon corps me le rend plutôt bien. Après, c'est vrai qu'il y a une réalité qui a été difficile au départ. C'est que je faisais beaucoup de sport, beaucoup de musculation. Je me suis construit une identité vis-à-vis de cela. Et c'est vrai que quand on se retrouve de 1m80 et c'est 76 kilos de muscles secs à 1m30 avec une fonte musculaire de 10 kilos que j'ai repris évidemment, mais pas en muscles, forcément, je me sens peut-être un peu moins bien dans mon corps, mais j'ai appris à m'accepter et à considérer que ce qui avait plus d'importance, c'était finalement ce qu'il y avait dans ma tête et les valeurs et les combats que j'avais envie de mener. Après, j'essaie de bien manger, d'être actif. Forcément, j'ai pris un peu du ventre, j'essaie d'y faire attention, mais la sédentarité et le manque d'activité physique. Donc ouais, je dirais la chose que j'aime le moins chez moi, c'est mon ventre. Ça, je pense que c'est assez propre à beaucoup de personnes en fauteuil. Tétra, et puis bon, y a aussi cette réalité, c'est qu'on est assis, que les viscères, on n'a pas les abdos ni le grand transverse pour retenir les viscères, donc à partir du moment où tu manges et que tu commences ta journée, le matin ça va, mais quand tu commences ta journée et que tu as commencé à boire de l'eau, manger un peu, tes viscères, il y a du contenant à l'intérieur et ça va venir un petit peu épouser les parois abdominales, et puis bon, vu que c'est pas retenu par les abdos, ça donne ce petit bidou, voilà. Mais bon, j'ai appris à l'aimer. Après, c'est sûr que je me montre moins qu'avant à ce niveau-là. Je suis pas toujours hyper à l'aise, j'essaie d'en faire fi et de pas, encore une fois, le laisser me condamner deux fois. Je pense que je suis quelqu'un qui aime plaire, mais au sens large du terme. Sur les applications de rencontre, par exemple, pour moi, c'est pas un sujet que je me mets tout de suite en fauteuil. Bon, j'ai envie de te dire, ça fait du tri. Et ce qui a joué en ma faveur, c'est que je joue beaucoup de l'humour. Donc d'ailleurs, je peux donner des petits tips s'il y a des gens en fauteuil qui nous écoutent. Mais par exemple, je raconte des conneries. Genre, je dis que je suis pas réputé pour faire le premier pas. Je dis que les mecs comme moi, ça court pas les rues. J'ai une anecdote d'ailleurs comme ça. Une fois, j'avais une nana qui me disait « Je te croyais hyper prétentieux » et puis elle avait pas vu en fait que j'étais en fauteuil. Et en fait, c'est après qu'elle a capté et puis ça l'avait fait marrer, quoi. Enfin voilà, je joue beaucoup de trucs comme ça. Après, tu peux mettre aussi tes loisirs. Et je m'amuse à mettre, je sais pas, escalade, patin à roulettes, tango. Enfin voilà, des trucs que, évidemment, je ne peux pas faire ou très difficilement. Et pour moi, c'est pas un sujet. Et je pense que au contraire, tu vois, ce qu'il faut prendre là-dedans, et c'est comme ça que j'envisage et que, en tout cas, que j'ai envie de voir les choses, c'est que dans tout le lot des mecs qui sont sur ces applications de rencontre, finalement, il y en a combien qui se distinguent ? Moi, je me distingue parce que déjà, c'est sûr que je suis assis sur quelque chose et que c'est un sujet qui interpelle. Et en général, j'ai jamais de questions malaisantes ou il y a de l'intérêt aussi. Et je pense que c'est aussi propice à des échanges un peu plus profonds que des « Salut, ça va ? Tu fais quoi dans la vie ?» Enfin, tu vois.
J'ai eu 3 relations longues. Alors, si tu veux revenir à la base de la base, c'est vrai qu'au début, c'était des vraies questions. Forcément, tu te retrouves, jeune homme, 25 ans, privé de plein de choses. Au début, c'est vrai que j'avais du mal à me dire qu'on pouvait s'intéresser à moi. Mais ça n'a pas été très longtemps un problème. Parce que je me suis aussi rendu compte que je pouvais encore plaire. Je ne m'en rendais pas encore compte. En tout cas, je ne m'autorisais pas à ce que ce soit le cas. Mais j'avais rencontré quelqu'un à l'époque, Manon, pour la cité, avec qui je suis resté 2 ans. Et voilà, je pense que c'est une personne qui m'a profondément aidé à m'accepter. Elle a été très présente pour moi. Et elle m'a dit quelque chose dont je me souviendrai toujours. Elle me disait, tu verras, avec les autres, ça sera plus facile. Et d'une certaine manière, je trouve qu'elle n'avait pas tort, parce que je n'avais pas ce même confort, ce même, les choses dont je peux disposer aujourd'hui qui vont limiter la charge mentale à laquelle je peux faire face. Maintenant, j'ai un niveau d'autonomie qui est à 100%, ce qui n'était pas le cas quand j'étais avec elle. Et forcément, on devait se débrouiller avec ça. Et forcément, il y a des moments où ça crée de la tension dans le couple, etc. Notre quotidien reste contraignant. Les sources de frustration sont multiples. Et ce qui est une réalité, c'est que les choses auxquelles je peux faire face, moi, personnellement, elles ont le choix de ne pas forcément se battre à mes côtés à ce moment-là. Il y a plein de moments dans nos vies de personnes en fauteuil qui vont nous agacer. Et je pense que ça peut profondément altérer les relations. Et ça, j'ai encore à cheminer là-dessus, à trouver mon équilibre. Tu vois, il y a beaucoup de choses positives, je partage du positif, mais il y a aussi beaucoup de réflexions et de questionnements sur cette vie-là en fauteuil. Est-ce que c'est pas trop contraignant pour quelqu'un? Est-ce que ma personnalité peut coller avec le fauteuil roulant en plus d'une personne qui va venir faire partie de l'équation? Est-ce qu'on est fait pour être tout le temps avec la même personne toute notre vie? Enfin, il y a beaucoup de questionnements vis-à-vis de ça. Et je pense que je vais m'arrêter là, mais je pourrais en parler pendant des heures.
Ok, Google, éteins le plafond.
Bon là, Julia, je m'apprête à partir chez le kiné. Ça doit s'entendre, je suis dans le couloir. Je vais appeler l'ascenseur. Donc là, je vais chez le kiné. Je vais essayer de reprendre un peu plus régulièrement. Parce que là, c'est vrai que j'avais un peu délaissé ça de mon côté. Mais c'est quand même important d'y aller. Pour le côté préventif, puis ça fait quand même du bien. Il me mobilise beaucoup les jambes, etc. Et ça permet de me détendre un peu l'espace. Bon, c'est temporaire, mais ça reste des choses qui font du bien. Et puis bon, c'est aussi un moyen de s'assurer que le corps vieillit bien, que les tendons, ça va, que j'ai encore de la souplesse, etc.
Jean, vous parlez dessus.
Merci, monsieur.
Je vous en prie. Et voilà.
Merci beaucoup, bonne journée.
Bonne journée, aussi.
Merci, monsieur. Au revoir. Hop là. Donc, je suis en route. J'ai hâte d'y être parce qu'il fait pas chaud. Il fait pas chaud dehors.
Something you said the other night made me believe that I am falling into your arms. A new paradise, could it be? Something you said.
Something you said.
Now should we change? Make an affair. I wouldn't want to spoil our friendship. How will we know?
Toujours dans la peau de Martin Petit, dans son cœur, dans sa tête et en fauteuil, avec lui.
Ma différence, à moi, Julia Foyce sur France Inter.
Ouais, on fait des beaux cours. Allô ? Je peux vous rappeler ? Je suis en séance avec un patient.
Oui.
À tout à l'heure, merci.
Donc là, je vous présente Pierre. Pierre qui est à mon âge, qui est présentement en train de me retirer mes chaussures, avec beaucoup de délicatesse.
Bonjour.
Voilà, il va faire son professionnel. Ça fait longtemps en même temps.
Ouais, ça fait longtemps.
On s'est pas vu depuis quand ?
Oh là là.
Faut que tu regardes sur ton... C'est en septembre, je crois.
Octobre.
Bon, ça va. Il est en train de me faire des étirements. Et
je vérifie les amplitudes.
Il vérifie les amplitudes. J'ai son collègue qui le regarde, qui se moque de lui. On se marre beaucoup, Kim.
Regarde ça, typiquement. Ce qu'on appelle une réaction de spasticité, d'accord ? Suite à un étirement prolongé des muscles, il y a tout qui a réagi. Et du coup, Martin, il s'est blessé, il est tombé sur la colonne cervicale, et du coup, il est devenu tétraplégique. Il est quand même pas mal. Pour un tétraplégique, il se la pète. C'est un peu la version luxe, c'est le premium. Donc bon, ça va, ça va. Ça va.
Écoute, ça fait du bien d'aller chez le kiné. Pierre, ça fait des années qu'il me suit maintenant, depuis que je suis dans ce nouvel appart. C'est vrai qu'il faut que j'essaie de reprendre une routine à ce niveau-là, parce que c'est important d'y aller, c'est important de prendre soin de sa santé. Comme tout le monde, en fait, vu qu'on est amené à être moins actif, bah on peut développer forcément des problèmes de cardiovasculaires, de diabète, etc. Après, une des choses qui nous concerne, nous, pour les blessés médulaires, le fait d'être en fauteuil, bah, c'est qu'on est sujet aussi aux infections urinaires parce qu'on se sonde. Donc, on a des risques infectieux. Ça peut des fois se manifester dans le rein, donc ça peut être plus grave. On développe aussi de l'ostéoporose parce que le fait d'être assis, notre squelette est plus poreux. Donc, on a des risques de fractures un peu plus importants. Puis après, on a des risques aussi infectieux au niveau des poumons parce qu'on n'a pas les abdos. Donc, si on attrape une violente grippe, on a plus de difficultés à extérioriser le virus. Donc voilà, c'est pour ça que faut entreprendre, à mon sens, de prendre soin de sa santé encore plus que les autres, si on veut assurer un corps fonctionnel le plus longtemps possible. Donc là, j'y retourne cette semaine pour éventuellement me mettre un petit peu debout, pour montrer à un stagiaire qu'il a actuellement... ce que je fais, ce que je travaille, donc voilà. Il est 11h22. Je vais avoir mon auxiliaire qui va arriver pour ce midi, Radija. Donc Radija, c'est une auxiliaire que j'adore avec Sonia, parce que elle est vachement prise d'initiative, à s'en rentrer dans mes habitudes, à savoir comment je mange. Et ça fait plaisir d'avoir des personnes qui, elles, pour le coup, te soulagent énormément. Elles vont m'aider pour le ménage, faire le lit, changer les draps. Elles sont vraiment là pour m'aider au quotidien, pour des tâches qui me sont plus difficiles. Et puis, après, pour la cuisine aussi, parce que c'est plus délicat pour moi. Je peux le faire, tu vois, mais couper des légumes, peler des légumes, c'est pas évident non plus. Donc, elles sont là pour ça. Moi, il faut que j'avance un peu sur mon montage vidéo qui sort dimanche. Et le temps qu'elle est là, et pour pas perdre du temps, je vais l'envoyer acheter quelques légumes parce que j'ai plus grand chose dans mon frigo. J'enregistre, pas que tu dises de bêtises. Non, en vrai, je sais pas ce que je vais prendre, je sais pas ce qui reste dans le frigo.
Je crois que je vais refaire du navet, j'ai bien aimé.
Le navet avec les pommes de terre.
Oui.
Tu sais, c'était bon la dernière fois.
Oui.
Attends, je vais te laisser ma carte bleue. Tu peux la prendre dans mon sac. Tu peux prendre ça. Tu peux prendre un brocoli. Tu peux racheter des œufs, il y en a plus. T'as mis l'huile d'olive un peu sur les brocolis ou pas?
Oui.
Perfecto. Brocoli navet. Si ça, c'est pas un repas de champion. Avec une petite pomme en dessert. Merci, Adia.
Avec plaisir et bon
appétit. Merci. Voilà, j'ai l'auxiliaire qui est parti. Donc, on a bien aidé. Là, tu vois, on a fait un peu des repas à l'avance. Elle m'a aidé pour le linge, pour un peu étendre. Bon, je l'ai un petit peu aidé au début parce que j'essaie de mettre la main à la pâte de temps en temps. Puis voilà, elle a rangé des affaires à moi où des fois, c'est un peu plus compliqué pour moi de les ranger. J'ai la chance d'avoir vraiment des personnes exceptionnelles. Et je tiens à le préciser parce que c'est des métiers qui ne sont pas souvent très valorisés. Et c'est vraiment des personnes, je pense, qui ont le plus d'humanité, qui exercent ces métiers-là. C'est des métiers où elles ne sont pas souvent très bien payées. Elles ont aussi leur vie de famille à côté, leurs contraintes. Et elles sont dévouées. Elles sont dévouées au maximum. La dernière fois, j'ai Radija, elle a été me chercher une galette pour mon anniversaire. Parce que je lui ai dit que j'en avais envie d'une. Et je pensais qu'elle allait la chercher à la Micheline qui est juste en bas de chez moi. Et en fait, ils en avaient plus. Elle a été dans un centre commercial qui est un peu plus loin. Elle a fait l'aller-retour et elle a pris sur son heure de déjeuner juste pour me faire plaisir. Et je trouve que c'est en fait le reflet de ce qu'elles sont. Et je tiens à valoriser ces métiers qui mériteraient davantage de considération. Et si je vous disais qu'on est à un tournant historique des droits des personnes handicapées? Je suis Martin Petit, créateur de contenu et concerné au premier plan par toutes ces injustices. Aujourd'hui, je prends la parole pour un appel urgent à la mobilisation. Les personnes en situation de handicap vivent encore trop d'inégalités et trop de promesses non tenues. C'est assez et le temps du changement, c'est maintenant. C'est pourquoi je m'engage auprès d'APF France Handicap et d'autres personnalités pour faire entendre notre voix. Notamment pour cette mobilisation historique demain, ce lundi 10 février 2025. Et toi, qu'est-ce que tu fais ce jour-là? Je te donne rendez-vous à 17h30 demain à République à Paris. Rejoins-nous. Là, je suis en direction de Paris pour la manifestation qui a lieu demain concernant le droit des personnes handicapées. Donc écoute, là, je suis dans le train. C'était un peu le rush ce matin parce que là, j'ai fait justement par rapport à la manifestation une vidéo pour maximiser le nombre de personnes qui pourront être là demain. Et donc voilà, il y avait pas mal de choses à faire. J'ai ma vidéo que j'ai sortie aussi sur YouTube à 11h de mon format confidence en interview. Donc j'en ai profité d'être dans le train pour pouvoir faire tout ça. Et puis il y a la réalité de devoir se déplacer avec son bagage, sa trottinette. Donc j'ai une petite technique, c'est que je me cale entre le guidon de ma trottinette et mes jambes. Et pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, il faut réserver son accès en gare aussi, l'accès PMR, où en fait, il y a des personnes qui t'accompagnent pour monter dans le train et descendre. Et c'est vrai que tu ne peux pas prendre le train sans eux. Il faut être une demi-heure
en avance avant de prendre le train. Dans les questions d'organisation, ce que je comprends. Sauf que des fois, bah, tu fais pas forcément ce que tu veux. Moi, ça m'arrive que, bah, des fois, mon corps, il répond pas comme je veux le matin, que je me retrouve à avoir des petits soucis et que, malheureusement, bah, des fois, bah, j'ai 5 minutes de retard et on va te faire la remarque de, enfin, je trouve ça très infantilisant et en fait, je trouve que c'est minimiser la charge qui nous incombe le matin où, bah, on peut pas se doucher en 5 minutes, aller aux toilettes en 5 minutes et s'habiller à la va-vite. Donc, pas évident. Je suis au Pullman Hotel, je me suis réveillé tranquillou pour cette manifestation pour laquelle je suis à Paris aujourd'hui, parce que ça me tenait à cœur bah, d'y être 20 ans après la loi du handicap de 2005. Il y a des choses qui évoluent trop peu, trop lentement, et bah, il faut qu'on fasse un peu corps ensemble, donc c'était un petit peu l'idée de la manifestation aujourd'hui, faire comprendre que les enjeux, notamment d'accessibilité, bah, ils nous concernent tous. Que l'on soit un parent avec une poussette ou une personne âgée, ou même voilà, si on se casse la jambe temporairement, ben on sera bien content de pouvoir se déplacer plus facilement, notamment dans Paris, parce qu'effectivement, quand tu vois le métro parisien, ben c'est juste pas accessible. Si on prend le bus, c'est 3-4 fois plus de temps de trajet, donc en fait, notre temps, il est compté comme celui des autres. Notre temps vaut pas moins. Moi, j'ai entendu dire que Paris était un gruyère et qu'on pouvait pas le rendre accessible. Je pense qu'on a suffisamment d'ingénieurs dans le monde, de gens qui travaillent sur Paris, dans la capitale, pour pouvoir le rendre accessible. En tout cas, moi, c'est ma volonté. Moi, que ce soit une question d'argent, etc., je m'en fiche. Parce que j'ai envie de te dire que ça sert à tout le monde. Donc, je préfère investir des milliards pour rendre une société accessible plutôt que de trouver des pseudo-solutions qui vont être toujours bah, pas optimales, quoi. Donc, bah, quand on se déplace à Paris, on aimerait juste que ce soit beaucoup plus facile. Et bah, je te le donne en mille, aujourd'hui, manifestation. Aujourd'hui, c'est le temps le plus pourri de la semaine, donc il va flotter de dingue. Et le problème, c'est que ma trottinette électrique, je n'ai pas de carcasse autour, donc je ne serai pas protégé de la pluie, donc ça ne sera vraiment pas l'idéal. Et d'ailleurs, à ce titre, je vais aller me préparer. Et j'en ai pour, je pense, une bonne heure, le temps de tout faire. Donc là, on vient de se poser à l'hôtel, à l'abri de la pluie, parce qu'il pleut des cornes. Donc je suis avec 3 amis en fauteuil. Mais on s'est pris la saucée, quoi. On est tous trempés. Donc c'est vrai que pour une manifestation, bah, la pluie, c'est le pire ennemi des personnes en fauteuil. Alors la manifestation n'est pas que pour les handis en fauteuil. C'est pour les handis de manière générale et au global. Mais là, c'est vrai que c'est vraiment pas le temps idéal. Donc voilà, on attend d'être la manifestation tranquillement, un peu plus au chaud.
La loi, c'est pas dans 20 ans qu'elle doit être appliquée. C'est maintenant.
Naturellement, il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités.
C'est une super promesse.
20 ans après, elle est où cette promesse? C'est quoi la vraie vie?
Au soin, au loisir, comme tout le monde.
J'ai commencé avec vous, Emmanuel, Maxime et Victoria. Emmanuel, vous êtes la présidente du DAFAM, l'Union des fous des pauvres.
Je viens d'arriver à l'hôtel, tu vois, là, il est minuit. On a eu la pire journée en termes de météo. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, finalement, c'est que déjà de voir qu'il y avait autant de monde. Les gens ont bravé le froid, la pluie. Ils sont restés tout du long de la manifestation. Il y a eu des prises de parole, etc., bah, pour défendre les enjeux qui sont les nôtres. Il y a eu aussi beaucoup de personnalités qui étaient présentes. C'était des très bons enfants, il y avait énormément de monde. Après, voilà, à voir ce que ça va donner. En tout cas, ce qui est chouette, c'est de voir qu'il y a des personnes qui se rassemblent autour d'un même enjeu, d'une même thématique. Et je pense que ça n'avait pas été fait jusque-là. Et en fait, bah, tu te rends compte que voilà, on peut être unis, on peut être solidaires, et que bah, on est certainement davantage entendus. En tout cas, on se laissera pas marcher dessus quand on est un gros groupe comme on l'était ce soir.
Cet épisode a été réalisé par Séverine Cassard, mixé par Basile Bocquer, supervision Fanny Boyon. Juste après le flash, une épopée musicale longue de 30 ans, l'histoire secrète de la French Touch. C'est une série signée Stéphane Jourdain et Mathieu Culeron. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec la journaliste et entrepreneuse Bérénice Magistretti. Comment on voit le monde quand on ne voit plus ? Vous serez surpris.
Bonjour, je suis Isabelle Autissier, présidente d'honneur du WWF France. En tant que navigatrice, je constate les effets du réchauffement climatique sur les océans et les glaciers. Notre planète se dégrade, mais ce n'est pas une fatalité. Ensemble, nous pouvons la protéger. En faisant un leg au WWF, c'est une planète vivante que nous transmettrons aux jeunes générations.
Demandez votre brochure leg sur transmettre.wwf.fr ou appelez au 01 73 60 40 40. Sur le